On rembobine avec Joris sur RCN.
Et bonsoir à tous et bienvenue dans On rembobine, votre émission musicale sur RCN, les mercredis soirs de 21h à 22h, émission dans laquelle on remonte le temps de façon musicale grâce à de très vieilles cassettes. Ce soir, on s'intéresse à un artiste en particulier, on va pas le dire tout de suite. Je vais d'abord accueillir mon Pablo, mon acolyte comme toutes les émissions. Comment ça va?
Ça va très bien, je le sais, c'est toi.
Oui, ça va très bien. Troisième émission déjà. Hein,
oui, ça arrive vite, ouais.
Et on a pour la première fois un invité dans cette émission.
Et pas des moindres.
Oui, nous sommes avec Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien. Je suis heureux d'être là.
Merci déjà d'être venu. Peux-tu te présenter? Âge, prénom, profession, c'est un interrogatoire. Non, vas-y.
Et moi, c'est Jean-Baptiste Batogé, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en création musicale à Paris 8. Et je suis pianiste, compositeur, voilà. Et j'aime beaucoup Polnareff, en effet.
Oui. Et donc, tu étais donc avant d'être en master, en licence, bien sûr,
oui,
à l'Université de Lorraine. Et il y a eu un projet, à un moment, de faire, du coup, un concert avec Polnareff.
Enfin, c'est exactement sur la musique de Polnareff. C'est ça. Mmh. On a un cours de musique collective à la licence de Nancy, de musicologie. Et ça, c'est une chorale. Et chaque semestre, on fait un nouveau programme. Et dans ma dernière année, ma licence 3, le professeur m'a proposé de faire des arrangements de chansons de Polnareff.
D'accord.
Exactement, oui.
Donc, en gros, vraiment, il t'a demandé de réécrire des chansons.
C'est ça.
Donc, est-ce que il t'a donné d'abord les chansons précisément qu'il voulait dans son programme ou t'as pu choisir un peu? Est-ce que ça a été un travail un peu en commun?
Ouais, c'est ça. Il m'a laissé un peu de choix. En fait, à la fin de la L2, je lui ai parlé un petit peu de mes envies de proposer un projet pour cette chorale et il m'a suggéré l'idée de reprendre des musiques très connues de la chanson française. À la base, on était parti sur Polnareff et Nougaro.
Okay.
À la base, on devait faire un peu les deux.
D'accord.
Et finalement, donc j'ai écouté quelques musiques de Polnareff parce que je connaissais, mais pas tant que ça finalement. Donc j'en ai écouté quelques-unes et j'ai beaucoup aimé. Alors finalement, okay, on est parti que sur du Polnareff.
Ok. T'avais écouté quoi à peu près en première chanson, les plus connues, genre
Ce que je connaissais déjà Toutou pour ma chérie,
ouais,
La poupée qui fait non.
Ouais.
Et c'est tout, en okay fait. Je connaissais ouais, pas d'autres.
Donc t'as découvert un peu la discographie plus en détail avec ce projet.
Exactement, c'est grâce à ce projet-là. Donc notre professeur Damien Guédon m'avait suggéré quelques musiques qui lui semblaient très intéressantes, autant musicalement que on va dire socialement, enfin
oui,
je veux dire voilà.
Ouais, ouais.
Et ensuite non, il m'a laissé choisir en fait et simplement une fois que je suis arrivé à une dizaine de chansons, j'ai arrêté de
c'est voilà pas mal quand même déjà.
C'est ça, une petite dizaine, je sais plus exactement combien en fait.
Il y en avait combien du coup à la fin au concert en gros?
Je sais
près
plus, mais ouais, je pense qu'une petite dizaine quoi, c'est ça.
C'est quand même déjà pas mal parce que ça devait être pas mal de taf.
C'est ça, ouais, mais c'est vrai que ce qui est marrant c'est qu'il y en a quelques-unes de très connues, par exemple Goodbye Marilou,
ouais,
qui est très très belle, une
ouais,
très belle
très
musique.
Connu, ouais.
Puis très connue. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parlait de ça, nous on disait oui, Marilou, oui.
Oui, okay.
Mais en fait, simplement, je l'ai pas écouté avant de choisir mes 10.
Ok.
Et du coup,
donc elle était pas dedans.
Elle était pas dedans. Okay. Alors comment j'adore cette chanson.
Parce qu'il y a plein de musiques très connues de Polnareff. Moi, je sais que, avant de connaître vraiment l'artiste avec plus de chansons, je connaissais quelques-unes, donc comme Goodbye Marilou, comme beaucoup de personnes, je pense, même toi, peut-être Pablo. Il y avait aussi On ira tous au paradis, mais je sais que vous l'avez pas forcément fait.
C'est vrai, moi celle-là je la connaissais, c'est vrai, mais je
m'en rappelle plus. Ouais, voilà, donc c'est des chansons assez connues. Et petit truc drôle, Pablo, donc tu étais en musico toi aussi.
Eh bah oui, il y a 2 ans,
ouais,
quand tu as fait ce projet du coup, Jean-Baptiste, et j'ai fait ce semestre-là exactement à la musicologie. Et donc j'étais dans la chorale en ténor pendant que tu nous faisais tes petites descentes au piano sur l'OVNI.
Ouais,
qui est plutôt galère entre parenthèses, oui. Mais ouais, c'était très drôle. Et du coup, le monde est petit parce qu'on se retrouve ce soir,
ouais,
à en parler au final. Donc
et c'est bien. Et on en reparlera de façon de comment, oui, du coup, JB, t'as dû écrire ces chansons, combien de temps ça t'a pris, ou même l'apprentissage des chansons à
sûr
la chorale, ou même Pablo, tu pourras nous témoigner du coup.
Et le monde est petit parce que même Joris a participé à ce
oui
concert.
Mais j'ai pas chanté de chansons
ouais,
de Polnareff. Moi j'ai fait mon égoïste. Non, j'ai chanté sur scène,
okay,
mais des chansons d'un groupe qu'on a en commun avec JB.
D'accord.
Qui est Sweet Mess.
Ah oui, bah, bien sûr.
Ouais, en fait, JB a réussi à glisser des petites musiques qui n'étaient pas de Polnareff dans le concert. Il a eu un peu une carte blanche.
Ouais, c'est un petit peu ça.
Bon, je vous propose qu'on,
incroyable,
du coup, débute sur Polnareff, quand même.
S'il te plaît.
Donc, Michel Polnareff, qui est né le 3 juillet 1944, donc c'est pas récent. Hein.
Donc, bah, ça fait un moment, je crois que ça fait 50 ans qu'il est dans le...
Dans la musique.
Sa carrière a duré 50
bah,
ans.
Ouais. Bah, parce qu'en gros, il a commencé du coup sa carrière en 66, donc Michel Polnareff, c'est quelqu'un vraiment qui a baigné dans la musique dès son plus jeune âge, hein, donc, que ce soit par son père ou sa mère qui était danseuse, il me semble. Donc il a vraiment baigné dans cet univers musical. Il a appris le piano très tôt. Quel âge?
Dès ses 4 ans, ouais. Son père, il était déjà le forcé à jouer du piano. Il raconte dans sa biographie qu'il était à 10 heures quotidiennes devant un clavier.
Ça fait beaucoup
ça pour un enfant de 4 ans.
Toi, t'as jamais fait 10 heures par jour de piano?
Non, c'est clair. Jamais. Même quand j'étais en études à fond, okay. Jamais. Et bon, moi, je donne cours à des élèves, ouais. Des cours de piano. Et au niveau de concentration, ça me semble complètement fou cette histoire.
Ouais, c'est vrai que
tu peux pas faire autant, mais même au niveau du cerveau.
Bon, après, il parle de son enfance comme quelque chose de qui n'était pas une enfance d'ailleurs. Hein. Mmh. C'était plus quelque chose de très dur et donc,
très militaire.
Et puis même encore plus que ça. Ouais. Donc je pense que ça devait pas être. Enfin, c'était 10 heures, mais à la fin, il dormait sur le piano, je pense, plus qu'autre chose. Mais
et c'est pour ça que du coup, à l'âge de 20 ans, il va quitter du coup son foyer, donc sa maison familiale. Et il va chercher des petits boulots, donc c'est un peu galère, mais en même temps, il va faire la manche dans Paris avec une guitare qu'il s'est achetée. Donc il fait du piano et de la guitare, donc le mec est déjà multi-instrumentiste. Et il va commencer à jouer des petits airs, et c'est là qu'il a commencé aussi à écrire sa première chanson, et c'est étonnant de se dire que c'est sa première chanson, c'est La poupée qui fait non. Donc pas mal d'écrire ça comme première chanson. Hein. Et donc cette chanson va apparaître dans son tout premier album, qui va sortir en 66, qui s'appelle Love Me, Please Love Me. Donc, titre de l'album, mais aussi titre d'une chanson.
Okay.
Ouais. Et donc, à peine âgé de 22 ans, il va enregistrer cette chanson, Love Me, Please Love Me. Vraiment, Polnareff est inspiré de plein de trucs, comme du rock, surtout américain, de la folk, avec Bob Dylan, tout ça. Et donc, dans cet album, il va jouer Love Me, Please Love Me, morceau qu'on va pouvoir écouter. Ça vous va?
Allons-y.
On rembobine.
Mais vous moquerez-vous toujours de différence. Parfois j'ai envie de me fondre dans la nuit. Au matin je reprends confiance. Je me dis tout pourrait changer aujourd'hui.
Love Me sur l'album du même nom sorti en 66. Hein. Michel Polnareff, une énorme tessiture hein, vocale.
En effet.
Franchement, je sais pas combien d'octaves, mais beaucoup.
C'est vrai que je ne sais plus, mais.
Ça dépasse 5 chiffres.
Non, ça serait... ouais. Mais du coup, on avait une question, JB, c'est que par rapport à cette tessiture vocale, puisque du coup tu as écrit pour un chœur, donc un chœur 4 voix, donc basse, ténor. Alto soprano.
C'est ça, donc deux voix pour les hommes, deux voix pour les femmes. Donc une voix plutôt grave, basse et alto, et une voix plutôt aiguë, ténor et soprano.
Okay.
Mais en effet, Polnareff a une tessiture tellement énorme que c'est trop aigu pour les sopranes.
Ouais. Et pour les ténors.
Et limite, également, voilà. Okay. Et limite, parfois trop grave pour les basses et les. Enfin, peut-être pas non plus, mais en tout cas, vraiment très très aigu. Quoi. Ah ouais. C'est très difficile.
Peut-être rappeler ce que c'est pour les gens qui ne savent pas une tessiture. Parce que
vas-y, Pablo.
C'est la différence entre la. Enfin, c'est plutôt la.
Comment je peux la largeur,
le panel.
Ouais, c'est ça, le panel que vous pouvez jouer entre la plus haute note possible et la plus grave, du coup.
Et du coup, comme on l'a pu entendre, Polnareff, ça va vraiment très haut dans les
Dans les extrêmes, dans les deux.
Ouais, une belle voix de tête.
L'ambitus.
Il sort les termes.
Pardon.
Désolé. On a le spécialiste, autant profiter. Et du coup, c'était plutôt compliqué pour écrire, par exemple, donc vous avez fait Love Me, Please Love Me.
Exactement, on l'a fait. Donc c'est vrai que celle-ci, c'était difficile parce que c'était très aigu pour les sopranes.
Ouais.
Mais voilà. Bon,
comment t'as adapté ça?
C'est le travail des sopranes aussi, c'est de chanter aigu, c'est comme ça. Non, mais on peut baisser les tonalités, arranger pour que ce soit tout plus grave, pour que ce soit plus accessible pour tout le monde.
Ouais.
Voilà.
Ok, bah oui, tout simplement.
Oui,
c'est le travail d'adaptation, en fait.
C'est ça, voilà. Et il faut vérifier quand on fait ça que ça ne devienne pas trop grave parfois.
Ouais.
Sinon, on joue sur les octaves. Il faut s'adapter en fait.
Ok, on va pouvoir passer à la prochaine musique. Donc, t'as dû réécrire aussi, ou peut-être pas, parce que c'est L'amour avec toi.
Oui.
Elle a été faite pas avec un chœur, mais en solo.
En effet, L'amour avec toi, on l'a fait Alors, justement, c'était une des chansons que notre prof voulait qu'on fasse. C'était une des celles sur lesquelles il m'a aiguillé. Parce que, au niveau du thème, c'était quelque chose qui, à l'époque où c'est sorti, c'était assez avant-gardiste, j'ai envie de dire.
Ouais, vraiment.
De parler de ça à la radio.
Clairement.
Tu vois,
Il parle là directement de liberté sexuelle, on peut le dire. Il dit qu'il veut faire l'amour avec quelqu'un. Donc ça, forcément, peut-être qu'en 66, c'était pas... On le pensait, mais est-ce qu'on le disait ? Ça, c'est quelque chose... C'est autre chose. Et c'est pour ça que, cette musique a été interdite, notamment par l'évêché de Paris, et du coup, qui a fait... cette musique a fait un objet de plainte pour pornographie, carrément. On parle de pornographie pour une chanson. Donc elle était interdite d'être diffusée à la radio.
Quand même.
On pouvait la diffuser qu'à partir de 22h.
Ok.
Nous, ça tombe bien. On est à peu près à 21h, on va la diffuser, on est hors la loi. Non, mais du coup, on va quand même écouter donc L'amour avec toi, toujours sur le même album Love Me, Please Love Me. C'est parti mon Pablo.
On rembobine.
Avec Joris, on rembobine sur RCN.
Votre serviteur, avec bien sûr toujours Pablo et Jean-Baptiste, ça va toujours. Hein.
Au top du top.
Alors, on a écouté du coup L'amour avec toi, hein, donc chanson fortement censurée, et qui parlait d'un thème qui, à l'époque, n'était pas forcément récurrent et assez précurseur. Et ça tombe bien parce que la musique d'après est aussi dans un thème qu'on ne parlait pas forcément à l'époque, donc qui va parler de consentement. Et surtout d'émancipation des jeunes femmes avec la poupée qui fait non, tout simplement parce qu'en fait la poupée c'est généralement le nom qu'on donnait à certaines filles, enfin surtout certains gars, on va dire un peu macho. Bon après c'était une autre époque.
Bah, c'était une façon de parler.
En 66, ouais. Et du coup voilà, c'est la poupée qui fait non, donc c'est vraiment ce symbole de révolution. Celle-là, je crois que vous ne l'avez pas fait à la chorale, mais tu as fait une petite partie au piano, parce que c'est l'intro, le riff, on va dire.
C'est ça, voilà. On s'est, en fait, ce qu'on voulait, c'est un concert avec de la musique en continu. Donc, ouais. Entre les morceaux de la chorale, je joue un peu de piano pour mm-hmm. passer d'une tonalité à l'autre, voilà, pour passer d'un morceau à l'autre.
C'est génial, ça.
Ouais, c'est ça, c'était fun, en vrai.
L'espace blanc et tout.
Ouais, c'était cool. Et du coup, bah, à un moment, j'ai utilisé oui, le riff de cette chanson-là pour ouais. passer d'une musique à l'autre.
Et surtout, riff assez intéressant parce qu'en fait, à l'époque, bon, Led Zeppelin n'existait pas encore, mais ce riff a été joué à la guitare donc par Jimmy Page, futur guitariste okay. de Led Zeppelin, c'est un truc de fou, et la ligne de basse par John Paul Jones, qui est aussi, lui, futur bassiste de Led Zeppelin. Donc en fait, vraiment, Michel Polnareff. Il adore le rock,
classe.
Mais c'est marrant parce qu'en fait, finalement...
il inspire des rockers.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est incroyable. Et donc, la poupée qui fait nom, qui a été reprise beaucoup de fois, de multiples fois. Mm-hmm. Et donc, on va pouvoir écouter, symbole du féminisme, la poupée qui fait nom.
On rembobine.
Qui fait nom de Michel Polnareff, toujours dans le même album Love Me Please Love Me, sorti en 1966, et on va pouvoir faire un bond dans le temps de 3 ans puisqu'on va aller directement en 1969. Donc Michel Polnareff, vous savez qu'il est donc auteur, compositeur, interprète, qu'il écrit donc des musiques pop, rock, tout ça, mais il a aussi écrit des musiques très instrumentales. D'ailleurs plus tard dans le temps, puisque là on est qu'en 69, mais bon, en 2024 on sait qu'il a écrit des musiques pour des films, donc notamment La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès.
Mais quoi ?
Et aussi La Vengeance du Serpent à Plumes avec Coluche. Donc il a écrit quand même des musiques pour des films.
Ok.
Donc c'est quand même... il est multitâche, quoi. Et donc là, on va pouvoir écouter Tous les bateaux, tous les oiseaux, donc, qui est sorti en 69 en single, donc elle n'est sur aucun album. Donc c'était la face A d'un 45 tours qui est sorti, avec en face B une autre chanson qu'on connaît, Toutou pour ma chérie. Donc voilà. La particularité, par contre, c'est que là, il n'a ni écrit les paroles, ni la musique. Donc il est vraiment juste interprète pour Tous les bateaux, tous les oiseaux. C'est assez étonnant. Mais donc il y a une orchestration qui est en fait un peu précurseur de son prochain album qu'on parlera après d'avoir écouté la musique, puisqu'en fait c'est un album avec beaucoup beaucoup d'orchestration. On en reparlera, mais enregistré à Abbey Road avec des chefs d'orchestre, des cordes, donc tout ça. Et là on voit un peu plus du coup le Michel Polnareff qu'on connaît, on va dire. Et donc t'as dû écrire forcément des pièces, mais juste instrumentales, donc juste musicales sans paroles.
C'est ça, en effet, sur la plupart des musiques, c'était juste un piano et une batterie, ouais. Et peut-être un peu de basse parfois, mais d'accord. C'est rare. Quelques guitares aussi sur certaines chansons, mm-hmm. Un peu plus rock. Mais donc sur quelques chansons, notamment celle-ci, Tous les bateaux, tous les oiseaux, on a fait jouer un orchestre, en effet. Parmi les étudiants de la musicologie, en fait, parce que c'est des étudiants qui sont aussi au conservatoire, donc certains ont un très bon niveau.
Ok.
Et donc voilà, on a reproduit un orchestre pour pouvoir accompagner cette chanson-là et puis d'autres aussi.
Donc il y avait quoi à peu près comme instrument?
Il y avait aucune corde frottée pour le coup.
Ok. Dommage.
Oui, c'est vrai.
Mais en même temps, c'est peut-être dur à trouver. Enfin,
c'est difficile à trouver.
Parce
en
que
effet.
C'est pas un peu des instruments compliqués donc à jouer. Donc est-ce que forcément pour avoir un très bon niveau et donc c'est dur de trouver des gens.
C'est peut-être vrai que les cordes frottées c'est un peu plus ingrat on va dire dans la mesure où il faut un certain niveau un peu plus élevé que pour les autres instruments pour obtenir un son vraiment très agréable et donc c'est pour ça qu'on a fait 100 cordes frottées en fait durant ce concert et donc on avait les bois donc il y avait des clarinettes, des saxophones et il y avait quelques cuivres, des trompettes et puis peut-être un cor ou alors c'était un trombone, un truc comme ça.
Et donc t'as dû composer enfin réarranger donc pour tous ces instruments là alors c'est que ça. Tu n'es que pianiste, comment est-ce possible?
Ça fait partie du travail du compositeur ou de l'arrangeur de savoir écrire pour un peu tous les instruments techniquement
grâce à la formation un peu musicale aussi,
c'est ça, voilà, moi j'ai une formation classique de conservatoire donc ça j'ai appris et c'est vrai que finalement c'est quand on écrit pour orchestre c'est un peu la même chose que quand on écrit pour piano finalement dans certaines mesures c'est vrai que il y a plusieurs voix voilà c'est mais il faut faire attention en effet aux particularités de chaque instrument et notamment quand on écrit pour des musiciens qui ne sont pas vraiment professionnels qui sont en cours de professionnalisation plutôt il y a certaines choses il faut faire attention voilà les tessitures de chaque instrument diffèrent selon le niveau de l'instrumentiste
d'accord
notamment donc voilà c'était aussi j'ai travaillé à vérifier auprès des instrumentistes eux-mêmes qu'ils soient bien capables de jouer ce que je leur proposais.
Oui, bien sûr, forcément. Et bien, on va pouvoir écouter. On rembobine.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, liés au trésor et les fruits d'or et les abeilles, ne pleure pas, petite fille. Je t'ai rêvé, tu es venu. Oh mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai. Il y a bas le long
ta rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tout le soleil, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue, je te donnerai.
On rembobine avec Joris jusqu'à 22h sur RCN.
C'était Tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff, sorti en single en 69. Alors avant de passer à la phase B de notre émission, je vous propose de faire un petit quiz, comme j'aime bien faire bien sûr en milieu d'émission.
Bah oui.
Donc on va, je vais vous poser des petites questions sur Polnareff. Donc c'est aussi des anecdotes, on va voir si vous connaissez ou pas. Et comme ça on va en apprendre des belles choses. Alors première question. Donc il a commencé sa carrière en 66 et surtout il a fait une première partie à l'Olympia en 66. Donc déjà le mec commence direct dans le haut du panier. Mais pour quel groupe a-t-il fait la première partie de l'Olympia en 66? Alors c'est compliqué,
c'est un
j'avoue.
Groupe français?
Non.
Ok.
C'est un groupe, si je me trompe pas, américain. C'est un peu, c'est pas en concurrence avec les Beatles, mais il y a un peu une opposition. États-Unis, Angleterre, boys band. Ça vous dit un truc?
Ça me dit rien du tout.
Les Beach Boys.
Ah, je pense. Ok, voilà. D'accord. Waouh. Ah oui, quand même.
Donc, il a fait la première partie.
C'était quand même bien.
Bah ouais, il a fait la première partie des Beach Boys et aussi en 67, il a fait la première partie de Dalida. Donc, il a fait des bonnes premières parties en 66 et en 67, c'est quand même déjà pas mal. Deuxième petite question, Michel Polnareff, il est connu dans plein de pays, donc surtout en France et aux États-Unis, mais il est aussi connu dans, très très connu vraiment, c'est une idole là-bas, dans un pays en particulier, est-ce que vous savez quel pays?
Oui, un pays d'Asie.
Oui.
La Chine?
Non.
C'est le Japon?
Ouais, le Japon.
D'accord, je crois que c'est la Chine.
Donc, le Japon, Michel Polnareff est vraiment très très apprécié là-bas, et d'ailleurs il y a plein de références dans des mangas à Michel Polnareff, donc par exemple dans un manga qui s'appelle Jojo, il y a un personnage qui s'appelle Polnareff.
C'est une rêve plutôt...
Voilà. Et dans One Piece, mais après il faut connaître, il y a un personnage qui a vraiment l'apparence de Polnareff telle qu'on la connaît. Donc blond, les lunettes de soleil, les écharpes un peu en plume, tout ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment...
Il a été connu là-bas très tôt ou c'est assez récent?
C'est plutôt... vraiment, quand il a sorti ses albums à partir des années 70, vraiment, il était connu là-bas. Et après, comme il continue encore à faire de la musique... Enfin, c'est devenu vraiment un artiste que les Japonais écoutent vraiment assez régulièrement au Japon. Donc c'est plutôt étonnant.
Ça, c'est ouf.
Vous verrez aussi bientôt que dans un autre pays asiatique aussi, il est connu. Mais alors, petite question, la troisième. Quel artiste mondialement connu a repris la poupée qui fait non en version instrumentale? Parce qu'il y a eu beaucoup de reprises, mais il y a surtout une reprise particulière d'un guitariste qui est aussi chanteur et qui appartient au club des 27. Ça vous dit quelque chose ou pas?
Bah du coup, c'est des membres de Led Zeppelin, comme t'as dit tout à l'heure?
Non.
Ok.
C'est un guitariste solo, mais il a fait un groupe qui commence par son prénom et qui finit par Expérience. Ça te dit un truc ou pas, Pablo?
Oh ouais, je l'ai pas du tout.
Jimi Hendrix. Donc Jimi Hendrix a repris, dès que La Poupée qui fait non est sortie, le morceau en version instrumentale. Donc ça montre vraiment que Polnareff, dès le début, partout il était connu, et même surtout aux États-Unis, et c'est un truc de fou.
Enfin, puis validé par ses pairs, quoi.
Bah ouais, donc là, Jimi Hendrix, il reprend La Poupée qui fait non à la guitare. Parce que on le sait, l'intro est assez, ça fait assez riff quoi. Donc c'est incroyable.
C'est un sacré achievement en vrai pour
lui. Mais dès 66 en plus.
Ouais, donc,
Et dernière petite question.
C'est fou.
Pourquoi est-ce qu'il porte des lunettes de soleil, Polnareff? Est-ce que c'est pour le look? Est-ce que
pour se créer une identité visuelle?
Ouais,
peut-être.
C'est
ouais,
c'est
mais
ouais,
s'il y a une autre raison,
ça. Il y a une autre raison, ouais. En gros, depuis l'enfance, il souffre d'hypermyopie. Il a eu beaucoup de problèmes avec la sensibilité à la lumière. Et il a eu une double cataracte brune. Et du coup, c'est pour ça qu'il voit presque plus rien.
Ah, d'accord.
C'est
donc
pour
c'est...
ça que, du coup, comme il est très sensible à la lumière, il porte des lunettes de soleil.
Ah, waouh.
Donc, alors, ce look, il l'a porté qu'à partir de 71. Un moment d'ailleurs où il sort l'album Paul Naref avec un S à la fin, donc apostrophe S. En anglais, ça pourrait être un peu ce qui lui appartient, je crois.
Ouais. Enfin,
c'est l'appartenance. Et du coup, Paul Naref avec un S, cet album commence par une musique qui s'appelle Voyage et qui est une musique totalement instrumentale.
Ouais.
Donc que vous avez, que tu as dû réécrire, JB.
En effet, oui. Et c'est vrai qu'on a commencé également par cette musique durant notre concert.
C'est marrant, c'est un peu une musique d'ouverture.
C'est
quoi.
Exactement ça, l'ouverture, un peu comme à l'opéra, j'ai envie de dire finalement.
Vraiment,
c'est un petit peu ça.
Et du coup, bah, moi, je vous propose qu'on l'écoute, cette musique.
Elle est magnifique, j'ai trop envie.
Mmh. Allez, c'est parti.
On rembobine.
Voyage de Paul Naref, introduction de son album Paul Naref avec un S, je sais pas trop comment le dire, mais on va dire Paul Naref avec un S. Morceau donc totalement instrumental et vraiment, on passe par tellement de choses. Enfin, c'est fou.
Ouais, on adore ce morceau.
On a une musique de film au début, ensuite
ça part quoi, sur du classique un
peu. Oui, ça part vraiment au début sur une écriture classique, une belle écriture en plus. Et puis après, on a vraiment ce côté rock, même un peu jazz. C'est vrai, on peut penser à ça avec le côté presque big band, les cuivres, puis le solo piano. Il mélange tout, même à la fin, il y a son son de contrebasse très grave qui ensuite se transforme en un son électronique.
Ouais, c'est vrai, il y a
un vrai voyage, quoi.
Une petite transition vers de l'électronique.
Ouais.
C'est marrant parce que du coup, plus tard, il va vraiment aller dans cette électronique-là avec des sons comme radio. Et d'ailleurs, il a collaboré avec Hans Zimmer, mais on en reparlera peut-être. Donc, c'est un truc de taré. Il a vraiment collaboré avec Hans Zimmer pour l'album Bull.
Ça va, il y a
81, c'est fou.
Il y a pire comme feat en vrai.
C'est fou. Et du coup. Dans ce même album, il y a un morceau que je trouve magnifique qui s'appelle Qui a tué grand-maman, qui est dans le même album que Voyage. Donc c'est vraiment déjà des paroles sublimes et bien sûr c'est en hommage à un ami à lui qui s'appelle Lucien Maurice, donc il est un peu en deuil de ça. Il faut savoir que ce morceau, et je savais pas du tout et je trouve ça fou, il a été utilisé comme hymne durant un soulèvement social en Corée du Sud.
Ouais.
Donc, en Corée du Sud, en 80, il y a eu un mouvement social-démocratique immense, il y a une révolte qui a éclaté, et ils ont utilisé ce chant, qu'ils ont réadapté avec des paroles à eux, pour, du coup, leur révolte. Et je trouve ça fou.
Ah, c'est vrai que dans ce morceau, on a vraiment une harmonie tellement riche
ouais.
et assez tragique, finalement, que c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres
ouais,
choses.
Ça fait un peu un hymne, on va dire.
Ouais.
Et même, du coup les paroles, c'est vraiment qui a tué grand-maman, est-ce le temps ou les hommes qui n'ont pas le temps de passer le temps. Voilà. C'est vraiment une métaphore du fait que... comment je peux dire ça ?
Il chante le temps d'avant, au final.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'il fait. Hein. C'est une hymne, entre guillemets, à son passé, une société qui devient plus cupide.
Ouais, c'est ça. C'est un Polnareff qui est blessé par une société, un temps un peu superficiel, et du coup qui se dit qui a tué ce bon temps.
Mais alors que ça a touché la Corée du Sud, ça, je suis.
Ouais. comme quoi, en fait, il touche vraiment tout. Son...
Ouais,
il touche
c'est
les États-Unis, l'Asie, l'Europe. Donc vraiment, Polnareff, on se doute peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment un artiste incroyable et c'est un génie, hein, surtout. Et moi, je pense qu'on va pouvoir écouter du coup cette magnifique chanson « Qui a tué grand-maman ?» C'est parti.
On rembobine.
Il y avait du temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin. Le temps a passé, seul reste les pensées. Et dans tes mains, il ne reste plus rien.
Qui a tué grand-maman ? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps ? La 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 la.
Il y avait du temps de grand-maman, du silence à les arbres, des feuilles sur les branches, des oiseaux sur les feuilles, et qui chantait.
Qui a tué grand-maman ? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps ? La 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 la.
Le bulldozer a tué grand-maman. Échange ses fleurs en marteau-piqueur. Les oiseaux pour chanter ne trouvent que des chantiers. Est-ce pour cela que l'on te pleure ?
Qui a tué grand-maman ? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps ? La la.
On rembobine de 21h à 22h sur RCN.
Qui a tué grand-maman sur l'album Polnareff avec un S toujours, sorti en 71. Morceau magnifique avec des chœurs aussi du coup qu'on a pu entendre. Est-ce que du coup c'était plus facile à composer comme il y avait déjà un peu des chœurs pour les harmonies du coup, ou alors est-ce que...
Non, finalement j'ai pas réutilisé beaucoup les chœurs de cette chanson, mais c'est vrai qu'une une chanson comme ça avec des harmonies assez classiques, finalement comme c'est de là d'où je viens, de classique, c'était ça le plus simple à écrire pour moi en fait.
D'accord.
Vraiment celle-ci, ce qui était plus difficile c'était peut-être plutôt d'autres chansons où il y avait beaucoup de riffs d'accompagnement.
Justement, je me demandais c'était quoi la chanson la plus dure à faire.
Bah, peut-être radio, je pense.
Okay.
Parce qu'en fait, radio, on a été... Je dis radio et pas radio parce que je suis
matrixé
par comment il le dit dans la chanson. En fait, il y a beaucoup de riffs d'accompagnement par des instruments. Mm-hmm. Et ça, je voulais le retranscrire dans le chant. Voilà, parce que dans la plupart des cas, les différents pupitres de choristes chantent tous en même temps, voilà, homorythmie, mais quelque chose de différent pour faire d'une harmonie riche. Voilà.
D'accord.
Mais sur celui-ci, Radio, je voulais qu'on retrouve une partie de l'accompagnement instrumental dans la chorale.
Ok.
Ce qui fait qu'il y a...
Ouais, c'est, ça part voilà. dans tous les sens.
C'est ça, voilà, ça part dans tous les sens, ils font vraiment le riff instrumental et en même temps un autre pupitre chante
ouais.
et la mélodie passe d'un pupitre à l'autre. Donc c'était plus ça qui était le plus difficile, ouais, c'était ça plutôt.
Et ça t'a pris à peu près combien de temps du coup justement à faire tout ça, parce que t'as dû écrire du coup, tu nous disais une dizaine de chansons,
ouais, qui
est quand même
ça.
Assez conséquent, parce qu'il faut faire du coup tous les chœurs, donc ça veut dire qu'il faut faire les harmonies, donc les quatre voix, pour les morceaux instrumentaux ou même c'était souvent accompagné du coup par un orchestre, il faut du coup justement réécrire tout ça. Ça doit être un sacré boulot quand même.
En effet, ouais, ça m'a pris l'été en fait. Hein.
Deux mois complet et tout.
Bah en fait, j'ai eu des vacances un petit peu aussi.
Oui.
mais oui, quasiment, parce que c'est vrai que j'ai fait aussi plusieurs versions pour voir avec mon professeur ce qu'on pouvait améliorer, etc. Donc oui, il y a eu plusieurs versions.
Ouais.
Mais ouais, on peut dire deux mois de travail, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai qu'il y a... C'est... Mais oui, quand même.
T'as pu dormir quand même ou...
Un petit peu. Voilà.
10 heures par jour devant
un clavier. L'été, c'est ça. L'été, ouais, c'est ça aussi à dormir. Donc,
oui.
Voilà.
Ah, c'est quand même un travail assez conséquent. Et c'est marrant, du coup, que tu parlais de radio, parce que du coup, on va pouvoir parler de cette musique donc, qui est sortie en 81. Donc là, on fait vraiment un bond de 10 ans. Hein. Donc il s'est passé plein de choses dans la vie de Polnareff. Il s'est exilé aux États-Unis. C'est pour ça qu'aussi qu'il a écrit la musique mythique Lettre à France, qu'on passera peut-être, on verra.
Oui.
Mais très magnifique musique, c'est la plus culte, je pense, c'est la plus connue de Polnareff, peut-être.
Difficile à dire, j'ai l'impression
mais
que les gens...
Elle est beaucoup aimée,
c'est vrai qu'elle est tellement belle. Je pense que la plus connue, c'est Goodbye Marilyn.
Ouais. Et après Lettre à France.
Peut-être, ouais.
Enfin, en tout cas, elle est mythique, beau texte, du coup, une lettre justement à France, hein, à son amour pour la France, puisqu'il est parti aux États-Unis. Et il est revenu, il a fait un album, Coucou Meurs Voilou, et il a fait du coup, très drôle comme expression, en 81, l'album Bulle, donc, qui s'est vendu à quand même 800 000 exemplaires, c'est pas mal.
Ouais,
vraiment pas mal. Ça va. Avec des tubes du coup comme donc Tam Tam et Radio, il faut le dire comme ça puisqu'il le dit comme ça. Et là on remarque que vraiment c'est un peu du coup bah aussi par rapport aux années 80, mais c'est aussi un peu un nouveau Polnareff puisque il va faire beaucoup de musique avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme. C'est pour ça aussi qu'il a du coup travaillé avec Hans Zimmer à Londres. Anecdote que je trouve incroyable, Polnareff avec Hans Zimmer,
le crossover.
Je te jure. Et du coup, en 81, sur l'album Bulle, il sort la musique radio qu'on va pouvoir écouter justement à la radio. C'est incroyable, tout est trouvé,
tout est millimétré, les
donc
gars.
C'est parti,
on rembobine. Thank you.
Radio, Michel Polnareff, sorti en 81. Donc là, vraiment, on a senti que c'était un peu différent de ce qu'on a écouté depuis le début. Hein.
Plutôt.
Beaucoup.
Ça a beaucoup plus rock, plus de musique électro aussi.
Ça fait plus bouger, on va dire.
C'est ça, oui. C'est un autre style.
Et bah, malheureusement, on a encore beaucoup de choses à dire sur Polnareff, mais c'est la fin de notre émission. Ça passe déjà hyper vite. On a pas le temps de passer tant de musique que ça. Hein. On n'a même pas eu le temps de passer Lettre à France. Peut-être à la fin, on va quand même peut-être se quitter avec, parce que c'est une magnifique chanson. En tout cas, merci Pablo d'être venu dans cette émission, comme toujours.
Mais avec le plus grand des plaisirs.
On se retrouve la semaine prochaine. Hein.
Mais évidemment.
Alors, de quoi on va parler, ça je sais pas, mais on réserve de belles choses.
Hein. Oh oui.
Merci JB.
Merci
d'être venu
à vous deux,
invité.
C'était très sympa.
Bah, plaisir partagé. Tu reviens quand tu veux pour parler d'un artiste, ce que tu veux.
Très bien.
On a 180 cassettes. T'inquiète pas. A...
Tu peux choisir ce que tu veux.
On a de quoi parler. En tout cas, merci à vous et on se retrouve bien sûr mercredi prochain, 21h, pour une nouvelle émission. On va quand même se quitter avec Lettre à France.
On rembobine. Je vis